VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 8 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. 9 personnes enlevées en banlieue d'Abuja au Nigeria. Les ravisseurs réclament une rançon. En Tunisie, Nabil Karoui a déposé un recours en justice pour un report du second tour de la présidentielle prévu dimanche. La Turquie se dit prête pour une opération en Syrie malgré les menaces de Donald Trump. Session extraordinaire au Parlement irakien après 8 jours de violences qui ont fait plus de 100 morts. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé 9 personnes, dont un garçon de 12 ans, dans une banlieue d'Abuja. Les détails avec Gilbert Tamba.
C'est la première fois qu'un tel événement s'est produit à Abuja. L'incident s'est produit dans la nuit du lundi à mardi à Pegi, une communauté à la banlieue de la capitale fédérale. Les hommes armés vêtus de camouflage militaire auraient tiré et blessé une personne avant d'emporter 9 autres avec eux, selon le porte-parole de la communauté de Pegi, Taiwo Adéric Bibé. Un proche de l'une des victimes a déclaré que les ravisseurs réclamaient une rançon d'environ 30 000 dollars. La police dit qu'elle a ouvert une enquête pour enlèvement de masse. Selon des témoins, les assaillants qui étaient en grand nombre ont également tiré sur des véhicules les obligeant de s'arrêter.
Un Boeing 767 de la compagnie Ethiopian Airlines a effectué un atterrissage d'urgence avec un réacteur en feu ce matin à l'aéroport de Dakar. Les 90 passagers et l'équipage sont saufs. L'appareil venait de décoller quand son pilote a demandé de faire demi-tour, selon Tidiane Tamba, porte-parole du gestionnaire de l'aéroport. Un plan d'urgence a aussitôt été déclenché avec l'ouverture d'un couloir qui a permis aux sapeurs-pompiers d'éteindre le feu rapidement, a-t-il précisé. Les États-Unis jugent inacceptable que des parties à l'accord de paix de 2015 au Mali profitent de la mission de paix onusienne sans s'acquitter de leurs obligations. Malgré les efforts louables de la MINUSPA, la tendance générale est extrêmement préoccupante, a souligné l'ambassadrice américaine à l'ONU, Kelly Craft, lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons continuer à soutenir une mission de paix qui profite aux parties signataires alors qu'elles refusent d'appliquer pleinement leurs engagements, avertit la diplomate, évoquant implicitement l'idée de mettre un terme à la MINUSMA. Le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté au Parlement une proposition de budget record pour 2020, soit 33,8 millions de dollars. La somme a été calculée sur la base d'une production de 2,18 millions de barils de pétrole par jour. Le Parlement prend généralement plusieurs mois pour valider un budget. Un policier a été lapidé au Malawi lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants proches de l'opposition qui tentaient d'empêcher la tenue d'une réunion publique du président Peter Mutharika. Les violences se sont produites à Msundwe, à l'ouest de Lilongwe, a annoncé le porte-parole de la police James Kadadzera. La police mozambicaine affirme que 4 des personnes soupçonnées d'avoir tué le chef d'une mission d'observation des élections font partie de ses effectifs. Anastasio Matavele a été abattu lundi à Xai-Xai dans la province de Gaza. Lors de leur fuite, les agresseurs présumés ont été impliqués dans un accident de la route au cours duquel 2 d'entre eux ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessés. Un 5e a réussi à s'échapper. Le chef de la police a suspendu le patron de leur unité et coordonné une enquête interne. En Tunisie, la mission d'observation de l'Union européenne a déploré une campagne du silence avant le second tour de la présidentielle prévue dimanche. L'un des candidats est en prison et l'autre a décidé de ne pas battre campagne. Le point avec Lionel Gaïma.
Pour Fabio Massimo Castaldo, chef de la mission d'observation de l'Union européenne, c'est une situation originale. Une campagne du silence, car l'un ne peut pas et l'autre ne veut pas. L'un des candidats, l'universitaire Kais Saïd, a annoncé samedi qu'il cessait de faire campagne pour respecter l'égalité de chance avec son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est toujours en détention. 7 millions de Tunisiens sont à nouveau appelés aux urnes dimanche, la 3e fois en un mois, pour élire leur président entre 2 novices qui ont fait la campagne sur une rupture avec l'élite politique traditionnelle. Les résultats des législatives du 6 octobre sont attendus demain mercredi. Le futur Parlement s'annonce très morcelé, car aucun parti n'a obtenu la majorité absolue.
Par ailleurs, Nabil Karoui, finaliste au second tour de la présidentielle, a déposé un recours en justice afin de demander un report de ce scrutin prévu le 13 octobre, indiqué l'un de ses avocats. Le candidat demande un report de l'élection jusqu'à ce qu'il soit libéré de prison pour pouvoir faire campagne, a précisé Maître Nazi Soué. La police d'Alger a empêché les étudiants de manifester ce mardi pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation en février. Au centre-ville, les policiers ont bloqué les manifestants et tenté de les disperser, procédant à des arrestations. Les étudiants ont contourné des barrages et se sont regroupés à plusieurs reprises près de la Grande Poste, où un important déploiement des forces de l'ordre a dispersé définitivement le cortège.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Syrie a appelé les Kurdes à revenir dans son giron au moment où cette minorité soutenue par Washington est menacée par une offensive de la Turquie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ankara dit avoir achevé les préparatifs pour une opération contre les forces kurdes dans le nord syrien. L'Iran a signifié à la Turquie son opposition à une action militaire en Syrie. Hier, les forces kurdes ont annoncé le départ des militaires américains de certains secteurs à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ce départ fait suite à la décision de la Maison-Blanche de retirer les forces américaines déployées dans le nord syrien. Le président Donald Trump a assuré que les États-Unis n'ont pas abandonné les Kurdes de Syrie, mettant en garde la Turquie contre tout excès et menaçant de détruire son économie. Le premier ministre français, Édouard Philippe, a réitéré ce mardi la nécessité de préserver les forces démocratiques syriennes, car selon lui, le combat contre Daesh n'est pas terminé. Les combattants kurdes soutenus par Washington ont contribué à la défaite du groupe État islamique en Syrie. Se disant marginalisés par les autorités, les Kurdes ont instauré une autonomie de facto. Damas refuse cette autonomie et les qualifie de traîtres.
Par ailleurs, la Russie a appelé à ne pas saper le règlement pacifique du conflit en Syrie. Lors d'une réunion, le président russe Vladimir Poutine et son conseil de sécurité ont souligné l'importance à l'heure actuelle d'éviter toute action qui pourrait saper le règlement pacifique du conflit, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Au Parlement irakien, plus de 200 députés ont participé à une session extraordinaire à l'appel du président de l'Assemblée, Mohamed Al-Alboussi, recevant des ministres pour débattre du mouvement de contestation. Après une première nuit calme à Bagdad, les restrictions sécuritaires ont été levées autour de la zone verte et le trafic a retrouvé son cours habituel. Plus de 100 personnes ont péri dans les manifestations débutées le 1er octobre. Le chef d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, Asim Umar, a été tué dans un raid conjoint américano-afghan dans le sud de l'Afghanistan fin septembre, selon les services de renseignement afghans. Le ministère de la Défense avait fait état le 23 septembre d'une attaque à Moussa Kala contre un repère utilisé par les talibans et des terroristes étrangers appartenant à Al-Qaïda. Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a demandé à l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne de ne pas témoigner au Congrès ce mardi dans le cadre de l'enquête des démocrates en vue d'une mise en accusation du président républicain. Les précisions avec Jacques Aristide.
Donald Trump a justifié la décision en qualifiant les auditions tenues par les démocrates à la Chambre des représentants sur l'affaire ukrainienne de « tribunal bidon ». J'adorerais envoyer l'ambassadeur Gordon Sondland, un homme très bien et un grand américain, témoigner, mais malheureusement il témoignerait devant un tribunal totalement partial, a tweeté le président américain. Pour le démocrate Adam Schiff, président de la commission du renseignement, l'absence de l'ambassadeur ce mardi représente ce qu'il appelle de nouvelles preuves fortes d'une entrave aux fonctions constitutionnelles du Congrès. C'est le département d'État américain qui a demandé à l'ambassadeur Gordon Sondland de ne pas se présenter aujourd'hui à la Chambre, d'après son avocat Robert Luskin. Venu de Bruxelles à Washington pour la déposition, le diplomate avait accepté d'être entendu volontairement Gordon Sondland, a contribué à la campagne et à la cérémonie d'investiture de Donald Trump.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Les producteurs africains du coton 4, le Mali, le Tchad, le Bénin et le Burkina Faso se réunissent cette semaine avec d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Ils espèrent discuter de la réduction ou la suppression de subventions publiques qui, selon eux, créent un terrain de jeu inégal pour les exportateurs. Les pays du C4 occupent le cinquième rang dans les exportations cotonnières avec 1 million de tonnes par an derrière les États-Unis et le Brésil. Le groupe rwandais Mara a lancé deux smartphones qui décrit comme les premiers modèles made in Africa. Le Mara X et le Mara Z utiliseront le système d'exploitation Android de Google et coûteront respectivement $190 et $130 américains. Ils seront en concurrence avec Samsung, dont le smartphone le moins cher coûte $54 et les téléphones sans marque à $37. Selon le PDG du groupe Mara Ashish Thakkar, l'usine peut fabriquer 1200 téléphones par jour. Exxon investira plus de $500 millions dans la phase initiale de construction de Rovuma, son projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique. Les travaux de construction ont été confiés à un consortium dirigé par le japonais JGC, la société britannique Technip et la société américaine Fluorcorp. Pour terminer, l'économie du Zimbabwe devrait se contracter jusqu'à 6% en raison de la sécheresse qui a touché la production agricole et la production d'électricité. Mais elle devrait se redresser l'année prochaine grâce à de meilleures perspectives agricoles.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Éliminatoire des Jeux Olympiques, la Côte d'Ivoire sort le Nigeria.
Oui, les Ivoiriens ont fait un match nul d'un but partout à Lagos dans le cadre de la rencontre retour de ces éliminatoires des Jeux Olympiques en football. Menés à domicile, les champions d'Afrique nigérianes ont fini par égaliser, mais ne feront pas mieux. Au match aller à Abidjan, les deux formations se sont accrochées 0-0. Grosse désillusion pour le Nigeria qui n'arrive pas à se remettre du départ de son sélectionneur, le Suédois Thomas Denerby. La Côte d'Ivoire, de son côté, réalise ainsi un gros coup et affrontera au prochain tour le Cameroun qui a perdu 2-1 face à la République démocratique du Congo à Kinshasa, mais qui avait disposé des Congolaises 2-0 à Yaoundé. Le Kenya s'est aussi qualifié pour le tour suivant en battant le Ghana 1-0.
Quatre nouveaux renforts pour les Lions de l'Atlas.
Le sélectionneur Vahid Halilhodžić a convoqué Omar El Kadouri, Naïef Aguerk, Abdelkrim Badi et Walid El Karti. Pour les journées FIFA du mois d'octobre, coach Vahid a dû modifier sa liste en raison de la blessure de Romer Saïs de Wolverhampton. Le doute plane par contre autour des participations de Hakim Ziyech de l'Ajax Amsterdam et Adel Tarabt du Benfica Lisbonne. Les Lions de l'Atlas affronteront la Libye ce vendredi au stade d'honneur d'Ouja, puis le Gabon le mardi 15 au grand stade de Tanger.
L'Afrique du Sud presque en quart du mondial de rugby.
La nation arc-en-ciel facile vainqueur du Canada 66-7 a accompli un pas décisif vers les quarts. Auteur de 6 essais face aux Canadiens, les Springboks sont presque rassurés de voir le tour suivant. Selon une improbable victoire bonifiée de l'Italie samedi face aux All Blacks néo-zélandais, pourrait les empêcher de rejoindre le cercle des 8 meilleures équipes de la planète. Les Springboks devraient terminer à la deuxième place de la poule B et jouer les quarts le 20 octobre contre le premier de la poule A, le Japon ou l'Irlande.
Et la télévision chinoise suspend la diffusion des matchs NBA.
La CCTV a annoncé qu'elle va suspendre la diffusion des matchs d'exhibition de la NBA en Chine. La télévision publique chinoise était censée diffuser deux rencontres d'exhibition entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, prévues jeudi à Shanghai puis samedi à Shenzhen. La crise a commencé vendredi lorsque Daryl Morey, le directeur général de la franchise Texan, a posté sur Twitter un appel de soutien aux manifestants de Hong Kong. La Chine a aussitôt réagi, annonçant que sa chaîne publique ne retransmettrait plus les matchs du club. Le patron de la NBA, Adam Silver, a déploré un tweet aux conséquences assez dramatiques. Il dit toutefois soutenir Daryl Morey quant à son droit d'exercer sa liberté d'expression. Des propos loin des excuses attendues par Pékin.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge avec vous, à présent les dossiers du jour. À Bangui, en République centrafricaine, dans le quartier du PK5, qui a été longtemps stigmatisé, des jeunes ont décidé de prendre en main leur destin en créant une organisation nommée le Cercle de la Jeunesse Islamique Centrafricaine pour le Développement. Cohésion sociale, travaux communautaires, réunions de sensibilisation sont certaines des activités qu'ils organisent pour améliorer le quotidien des habitants du quartier. Pascal Serra nous emmène à leur rencontre.
Le quartier du kilomètre 5 à Bangui, ses monuments, ses boutiques, ses commerçants et sa jeunesse qui s'active afin de contribuer au retour d'une paix durable entre les communautés.
Chacun de nous maîtrise son équipe déjà.
Ici, les crises politico-militaires ont laissé des empreintes qui ont favorisé la marginalisation et l'enclavement de toute une population. Une situation que des jeunes volontaires ont décidé de changer.
Je suis le président de CRJ4, c'est une organisation de la jeunesse musulmane centrafricaine qui évolue beaucoup plus dans le cadre de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et chaque année, nous inscrivons beaucoup plus les enfants démunis, comment dirais-je, à l'école, et de contribuer aussi à leur éducation, de les appuyer avec les fournitures scolaires. Nous sommes aussi et dans la formation aussi, formation d'entrepreneuriat, pour que demain, ils deviennent responsables d'eux-mêmes, de créer des entreprises pour développer le pays. Parce que c'est la pauvreté là vraiment qui pousse les gens vraiment de faire n'importe quoi. Nous promouvons aussi beaucoup plus l'éducation des filles parce que une fille, si elle est instruite, j'espère que c'est toute une nation qui est instruite.
À travers leur organisation, les jeunes, avec l'appui de quelques partenaires, organisent sans relâche des activités qui favorisent la cohésion sociale, le relèvement du système éducatif ou encore pour rendre effectives les campagnes de vaccination. Des actions qui portent des fruits.
À l'époque, si quelqu'un dit qu'il part au kilomètre 5, les gens croyaient qu'il part dans un couloir de la mort. Vous avez vu aujourd'hui, il y a retour des activités, il y a la calmie, les enfants aillent à l'école, nos mamans partent à l'hôpital, et les jeunes aussi exercent leurs activités. Vraiment, on a eu des résultats sur le terrain.
Volontaires, investis, engagés, les jeunes du kilomètre 5 espèrent que leur pays redeviendra un jour la vitrine de l'Afrique, un but qui sera atteint grâce à la contribution de tous.
C'était un reportage de Pascal Serra à Bangui, en Centrafrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur ce qui est désormais connu aux États-Unis comme l'affaire ukrainienne. Une affaire qui domine le débat politique américain. Les adversaires démocrates de Donald Trump enquêtent en vue d'une mise en accusation du président républicain qui lui parle d'une nouvelle chasse aux sorcières après l'enquête russe. Que pensez-vous de l'affaire ukrainienne ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Longtemps stigmatisés en raison de leur orientation sexuelle, les LGBT en Côte d'Ivoire aperçoivent aujourd'hui une lueur d'espoir. Briser les tabous et la discrimination autour de leur personne, telle est la lutte engagée par certaines organisations non gouvernementales du pays. Sur ce sujet de société, voici un reportage de Siriki Baro à Bouaké.
Même si aucune loi n'interdit l'homosexualité, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels sont marginalisés et victimes de violences de tout genre. Youssouf est homosexuel. Pour cette raison, il a été expulsé de la maison qu'il loue.
Je vois des gens efféminés qui viennent chez toi à la maison dans une cour musulmane. Des femmes qui marchent comme des garçons, ça lève beaucoup de questions. Le propriétaire de la cour m'a dit, lui, je ne veux pas voir ce genre de personnes chez lui à la maison. Et sa religion l'interdit donc de libérer sa cour. Il m'a donné 3 mois, mais pendant les 3 mois, je n'avais plus accès au courant ni accès à l'eau.
Lui se fait appeler Rosé Fécha, il est bisexuel. Pour éviter la haine et la furie des homophobes, il a décidé de cacher son appartenance sexuelle, malgré son aspect féminin très prononcé.
Je suis chrétien, en fait. J'essaie de camoufler mon vrai comportement. C'est tout, tout triste. Moi, quand ma photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, si tu veux parler, t'expliquer, ça va rentrer dans des choses que toi, mais tu ne pourras pas contrôler. Donc, je préfère me taire sur le sujet.
Défendre les droits des personnes LGBT, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Secours Social. Une organisation qui ambitionne rétablir les LGBT dans leurs droits, mais également lutter contre le VIH-Sida chez ces personnes. Lucien Lagan en est le responsable.
Souvent, quand tu entends parler d'un LGBT, vraiment c'est touchant. Ils sont traités de malades, de maudits. Ils sont traités de tout. Or, c'est des êtres humains. C'est des personnes vraiment très vénérables. Côté santé, c'est des personnes vraiment qui ont peur d'aller dans les centres de santé. Or, le taux de VIH de la communauté est plus élevé, vu le rejet.
Toujours selon Lucien Lagan, les actions de sensibilisation menées auprès des religieux commencent à porter fruit.
On a essayé de croiser des imams, faire des plaidoyers avec eux. C'était pas facile. Après ça, ces imams, ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont commencé à accepter. Les personnes qu'on déteste tellement, qu'on maudit chaque jour, c'est nos enfants.
Plusieurs cas de violence envers les LGBT ont été enregistrés à Boaki. Le dernier en date remonte au mois de mars 2019. Un jeune gay a subi une attaque à la machette. Par peur, il a décidé de garder le silence sans jamais porter plainte contre ses agresseurs. Siriki Baro, Boaki, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
On va en Ouganda à présent, où les efforts consentis pour insuffler une vie à l'industrie locale du textile et de la mode sont confrontés à diverses difficultés, parmi lesquelles notamment le marché florissant des vêtements d'occasion. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Chaque dimanche, à un carrefour de Kampala, les commerçants se retrouvent pour vendre leurs marchandises. Rejetés par les magasins de charité ou les friperies de l'Occident, les vêtements de seconde main sont populaires parmi les Ougandais. Ils sont également une source de revenus importante pour un segment de la population. Rose Natabi vend des vêtements usagés depuis plus de 5 ans.
Les vêtements vendus dans les magasins ici ne durent pas longtemps. Le tissu se déchire facilement après lavage. Ces vêtements de seconde main, eux, sont durables. Ils ont déjà été utilisés, mais ils sont meilleurs que ceux fabriqués ici en Ouganda. Ceux d'ici sont de mauvaise qualité. On les lave une fois et ils sont déchirés. Les enfants les portent pendant 2 mois et c'est tout.
Ce n'est pas seulement en Ouganda. Le commerce de vêtements de seconde main est courant sur tout le continent, le Ghana, la Tanzanie, le Bénin et le Kenya étant parmi les plus gros marchés. Toutefois, bien que cela puisse apporter une solution pratique au chômage, les critiques soutiennent que le commerce de vêtements usés empêche l'Afrique de se doter d'une industrie. La créatrice de mode, Victoria Mira Bakini, souhaite que ce commerce soit interdit.
Cela aiderait d'une manière ou d'une autre, car parfois, des choses sont importées dans le pays. Mais ce sont des choses que nous pouvons faire en tant que créateurs vivant dans le pays.
Ce n'est pas si facile. En 2016, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda ont tous augmenté les taxes sur les vêtements et les chaussures usagées. Mais en 2017, un groupe de commerce représentant les exportateurs de vêtements usagés américains a déposé une pétition contre cette mesure. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont fait marche arrière et accepté de réduire le montant des taxes. Le Rwanda, qui a refusé, a vu son exemption des droits de douane sur les vêtements exportés vers les États-Unis suspendue.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les États-Unis n'ont pas abandonné les Kurdes, a tenté de rassurer ce mardi le président américain Donald Trump, 2 jours après avoir annoncé le retrait de troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque dans le nord de la Syrie. La décision est contestée au sein même du parti présidentiel. pour une analyse. Bagassi Koura a joint en France Jean Marcoux, professeur à Grenoble, ancien directeur de l'Institut français d'Istanbul.
En réalité, les milices kurdes ont été un petit peu le bras armé des États-Unis face au groupe djihadiste, en particulier à Daesh. Vous savez, le groupe djihadiste Daesh, l'État islamique. Parce que finalement, en 2013, lorsque ce phénomène djihadiste s'est imposé dans la crise syrienne et dans la crise irakienne, les États-Unis et leurs alliés ont déclenché une coalition internationale, mais une coalition internationale qui n'était uniquement chargée que d'intervention de frappe aérienne. Or, il fallait aussi quelqu'un pour intervenir sur le terrain, et ceux qui sont intervenus sur le terrain, ce sont ces milices kurdes syriennes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, ils contrôlent le nord-est de la Syrie, et donc, bien évidemment, on a l'impression que les États-Unis se sont servis des Kurdes lorsqu'ils en avaient besoin.
Et pourquoi est-ce que la Turquie veut attaquer les bases kurdes en Syrie?
Parce que la Turquie considère en fait que les Kurdes syriens, bon, qui sont rassemblés dans un parti, enfin, qui domine cette zone kurde syrienne,
la Rojava.
Le Rojava, et ce parti s'appelle le PYD, et les milices en fait kurdes s'appellent les YPG, c'est-à-dire les YPG, hein, les unités de défense du peuple. La Turquie considère en fait ces Kurdes syriens comme des alliés en réalité, voire même comme la branche syrienne du PKK qui mène la rébellion sur le territoire turc.
Alors les Kurdes, ils sont sur plusieurs territoires, dans plusieurs pays, l'Irak, l'Iran, oui. La Turquie. Et pourquoi est-ce que tous ces pays n'arrivent pas à régler la question kurde et la Syrie justement?
Parce que finalement, les Kurdes sont sur différents territoires et qu'il y a un petit peu une double approche du problème kurde. Il y a à la fois une identité kurde globale, mais en même temps, quand vous regardez de près, dans chaque pays, les Kurdes ont des particularités, voire des affinités.
C'était une analyse du professeur Jean Marcoux, ancien directeur de l'Institut français d'Istanbul.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition, la mise en onde c'était Cheikh Thiro, la présentation Nathalie Barge. On se retrouve dans un instant pour un rappel de l'actualité. A tout de suite à l'écoute de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.